Ramayad, directrice Afrique du Centre de réflexion Atlantic Council. Elle est ancienne ambassadrice de la France à l'UNESCO. Vous êtes également, vous avez occupé deux postes de secrétaire d'État en France. Avec moi à Douala, Michel Lobé-Ewané, ancien rédacteur en chef de Forbes Afrique, auteur du livre Être milliardaire en Afrique aujourd'hui. Et au téléphone dans la région de Kaye au Mali, Ali Tunkara, chercheur, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel. Et je vais justement démarrer avec vous, Ali, vous qui êtes sur place au Mali. Le Burkina, le Mali et le Niger, c'est un bloc de 71 millions d'habitants sur plus de 400 millions que compte la région. Mais c'est également 2,8 millions de kilomètres carrés. Donc leur départ ne peut pas être une bonne chose. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment l'éviter au vu des tensions de ces derniers mois?
C'est vrai que quand on regarde depuis le coup d'État au Mali, successivement au Burkina, au Niger, sans occulter celui également survenu en Guinée-Conakry, tout laisse entendre que les chefs d'État de la CEDEAO et les militaires à la tête de ces différents États concernés par la transition, il n'y a rien d'étonnant qu'on arrive à des situations aussi complexes ou attendues. Ça a été rappelé, quand on se réfère à l'esprit du communiqué, ces trois États l'ont toujours réaffirmé, l'absence marquée de l'institution sous-régionale dans leur tentative de circonscrire la menace terroriste. Au-delà de cette absence, c'est aussi à en croire aux différents communiqués. L'institution elle-même, dans son agir, laisse entendre par moment et par endroit d'évoluer sous l'emprise, pour ne pas dire à la merci, des États autres que Sahéliens. Ces raisons réunies expliquent le pourquoi aujourd'hui ces trois pays ont décidé de mettre un terme à leur appartenance à cette instance sous-régionale avec effet immédiat.
Donc,
en somme, la lutte contre la nébuleuse terroriste, les sanctions infligées contre ces États en période de transition, et lesquelles sanctions ont été quand même en géométrie variable, le sentiment d'avoir une instance qui serait plutôt à la merci des États occidentaux, en particulier le cas de la France.
Alors, Ramayad, est-ce qu'on peut parler d'échec du modèle d'intégration de la CEDEAO?
Clairement, la CEDEAO vit des heures difficiles. En voyant partir pour la première fois trois de ses membres depuis sa création en 1975. D'ailleurs, on voit bien que les manœuvres diplomatiques n'ont pas cessé depuis l'annonce de dimanche. Les responsables de CEDEAO espérant encore trouver les moyens d'une conciliation et, afin qu'ils puissent rester. On parle même d'un sommet extraordinaire qui devrait se tenir ces jours-ci. C'est dire à quel point, au-delà même de ces juntes militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays, il s'agit des États eux-mêmes. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont des États importants dans ce groupe sous-régional. L'Afrique est bardée du nord au sud par des organisations régionales. C'est un des continents au monde où il y en a le plus. La CEDEAO est l'une des plus vieilles, qui va dans deux ans fêter ses 50 ans, qui est à la fois, et qui a l'originalité d'être à la fois une organisation économique, puisqu'il s'agit d'un espace de libre échange, de libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, mais également un espace où il y a des prétentions de stabilité, de sécurité.
L'une des critiques, justement, est-ce que l'organisation ne devrait pas rester dans le champ économique, ou est-ce qu'elle devrait, comme elle le fait de plus en plus, s'intéresser, pour ne pas dire s'immiscer, pour certains, dans les processus politiques et démocratiques?
En fait, effectivement, la vocation de la CEDEAO était essentiellement économique. économique à la base, donc dans les années 70. Et puis dans les années 90, du fait de l'instabilité politique dans la région, de certaines crises politiques, eh bien la CEDEAO dans les années 90 a fait évoluer ses textes et ses interventions en s'engageant dans un champ plus sécuritaire, plus politique. Ce qui n'est pas allé sans difficulté. Des fois, enfin, quelquefois ça a pu marcher comme au Libéria, dans d'autres situations, ça a moins marché. Lorsque la CEDEAO a eu la prétention de limiter les mandats des présidents, par exemple, notamment la Côte d'Ivoire, cela n'a pas pu se faire. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement cette situation des coups d'État qu'elle n'a pas pu empêcher. Et puis, très récemment, à l'été dernier, la tentative du président nigérien Tinubu de proposer à ses pairs une intervention militaire à la suite du coup d'État au Niger et de l'arrestation, en tout cas de la mise en retrait du président Bazoum. Donc tous ces échecs-là pèsent lourd sur le plan politique, mais n'occultent pas la nécessité d'avoir une solidarité régionale économique. Ces pays, par leur taille, ne peuvent s'en sortir seuls. D'ailleurs, les trois États sortants de la CEDEAO ont créé une alliance des États du Sahel. Parce que,
ils ne sont pas parmi les plus riches, mais c'est quand même 2,8 millions de kilomètres carrés. Oui, c'est énorme et c'est important pour toute la région.
Tout à fait. Et puis les richesses, ce sont des pays très pauvres dans les classements internationaux, mais ce sont des pays très très riches. Je veux dire, le Mali, c'est le troisième producteur d'or au monde. La Guinée, c'est le deuxième producteur de bauxite au monde. Le Niger, c'est un pays très riche en uranium. Donc, et d'ailleurs, un pays non loin de là, le Maroc, ne s'y est pas trompé, puisque le roi du Maroc avait proposé dès début novembre, lors du 48e anniversaire de la Marche verte, une solidarité atlantique, une ouverture vers l'Atlantique pour ces pays-là, pour quatre de ces pays-là.
Alors, Michel, la CEDEAO, malgré les critiques, a tout de même été considérée comme étant l'une des organisations régionales ayant mieux réussi son intégration économique, notamment avec la libre circulation des biens et des personnes. Pourquoi en est-on arrivé là, selon vous?
Écoutez, c'est vrai que la vision qui a l'intégration économique, la libre circulation des biens et des personnes, beaucoup de projets d'infrastructure. Et le problème aujourd'hui qui entraîne cette crise, parce qu'il faut partir d'une crise qui est même une crise existentielle de l'organisation, est liée à cette mission dont est l'arène politique, en voulant régler les crises politiques, en essayant d'apporter une contribution et qui cette fois-ci était un peu brutale, sans doute aussi maladroite, avec une ingérence internationale qui a contribué à braquer les pays concernés. Cette espèce de tentation militariste, c'est-à-dire d'intervention militaire pour rétablir le régime de Bazoum, a été un véritable tournant, puisque ça a été un débat de ce que les dirigeants de la CEDEAO ont fait, le président Tinubu, le président Ouattara, avec derrière, en background, et c'est ça un des problèmes de la CEDEAO, en background de la France et le président Macron. On a eu l'impression qu'à un moment, la CEDEAO était déléguée. Et c'est un peu ça qui a cristallisé les oppositions.
Ok. Ali Tunkara, est-ce qu'il faut craindre une désintégration de la région, voire même, des tensions politiques entre des pays de l'AES et les membres de la CEDEAO, ou bien est-ce qu'il est possible de coexister et même, pourquoi pas, collaborer dans certains domaines si la rupture est consommée?
C'est vrai que la désintégration sur le plan politique, voire sécuritaire, dans un avenir relativement court, serait une hypothèse tout à fait plausible quand on sait qu'aujourd'hui les trois États sont décidés justement à mettre un terme de façon effective et réelle à la participation à cette instance dont ils ont la ferme conviction qu'il n'y ait pas une instance indépendante. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde aussi cette proximité anthropologique entre les communautés des parcs et d'autres, naturellement, quelle que soit l'issue de cette annonce, des ouvertures vont être possibles, ça et là. Ne serait-ce que si vous regardez entre Maliens et Sénégalais, entre Maliens et Ivoiriens, entre Nigériens et d'autres ressortissants de l'espace, naturellement, de part et d'autre, les gens sont très liés par le sang, par l'amitié. Cette dimension de proximité géographique, de proximité anthropologique finirait par avoir raison sur l'instance qui est la CEDAW elle-même. Maintenant, ce qui est du retour à cet élan d'antan en termes d'intégration politique, en termes de solidarité entre les États, semble-t-il, au regard de la méfiance affichée vis-à-vis de cette institution par ces trois États, que cela n'est pas du tout d'actualité. Si vous interdisez cette lutte militaire au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, au Niger, oui. Naturellement, vous allez vous rendre compte que le rapport qui est quand même fait à l'institution, notamment dévoyée sous tutelle des puissances étrangères, il est par moment, par endroit,
alors,
quand même probable.
Monsieur Tunkara, on va lire rapidement deux commentaires laissés par nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi à Abidjan, il nous dit que cette organisation doit s'en prendre à elle-même si elle enregistre des départs. Elle est sous l'influence des puissances occidentales qui prennent des décisions à sa place. Il sera difficile que cette négociation voulue par la CEDEAO aboutisse vu la détermination de ces trois États, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et puis Thierno Omar Diallo à Conakry, il écrit, c'est une faute grave, impardonnable que ces putschistes à la solde du Kremlin viennent de commettre. Pendant que les autres Africains rêvent des États-Unis d'Afrique, ces militaires sèment le désordre et compliquent davantage la situation désastreuse de leur peuple. Vive l'unité de l'Afrique de l'Ouest, vive l'unité africaine. Alors, Ramayad, au vu de ces commentaires, c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais globalement, je dois dire que cette décision de sortir de ces trois pays semble assez apprécié par les populations. Comment est-ce que vous voyez tout cela? Est-il possible de recoller les morceaux?
Moi, je ne sais pas si c'est apprécié par les populations, puisque les populations n'ont pas été...
Tu n'as aucune donnée scientifique. Je dis ça sur la base de ce qu'on voit.
Donc, les populations, on leur fait dire tout ce qu'on veut. On ne les a pas interrogés, il n'y a pas eu d'élection. Le pouvoir a été pris sans demander l'autorisation à la population. Et puis, des décisions sont prises au nom de la population. Bon, c'est pas ce qu'on appelle la démocratie. Ça c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est que la faiblesse des États, des gouvernements antérieurs, sans doute explique la situation actuelle en partie, à savoir que évidemment affronter depuis 20 ans les mouvements djihadistes sans résultat probant, essayer d'engager ces pays-là sur la voie du développement sans résultat probant, ce sont deux éléments qui ont considérablement affaibli les pouvoirs en place ces dernières années et pavé la voie finalement à l'arrivée de ces putschistes qui ont pu effectivement bénéficier du soutien d'une partie de la population, mais cela ne permet pas de dire qu'ils ont la population derrière eux. D'accord. Ensuite, ceux qui effectivement évoquent les puissances étrangères, elles sont nombreuses en Afrique parce que la compétition fait rage entre les puissances occidentales et puis la Russie, la Chine et les puissances régionales.
D'accord, ils l'ont d'ailleurs bien souligné, il y a un qui parle des Russes et l'autre qui parle des Occidentaux. Donc c'est un débat en tout cas que nous vous invitons à poursuivre sur notre page Facebook. Nous allons revenir avec vous, Michel, après la pause. On est un peu pris par le temps. Marquons une toute petite pause et revenons juste après.
Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Pour la seconde partie de Washington Forum, et je rappelle nos invités avec moi en studio à Washington, Ramayad, directrice Afrique du Centre de Réflexion Atlantic Council, via Skype à Douala au Cameroun, Michel Lobé Ewane, ancien directeur, rédacteur en chef de Forbes Afrique, et au téléphone Ali Tunkara, chercheur, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel. Il est en ligne de Kai au Mali. Alors Michel, selon vous, est-ce que le Nigeria a failli à son rôle de leader régional? Quand même, le Nigeria est instrumental et important dans cette organisation.
Oui, moi je pense qu'il faut être clair là-dessus. Le président Tinubu a mal entamé son équation diplomatique juste après son élection, parce que cette crise qu'il devait gérer, il a mal géré. En tout cas, les décisions qu'il a engagées, dont aucune n'a été couronnée de succès, aucune n'a pu être exécutée de manière concrète, ont entraîné cette situation. Mais je voudrais aussi m'interroger sur une question qui que révèle pour moi cette crise de la CDAO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le continent africain, l'Afrique de l'Ouest, les pays du Sahel, mais plus largement, l'Afrique traverse une question de questionnement important sur ses institutions, sur la question politique et sur la démocratie qui est au cœur de la crise. Donc, beaucoup ont parlé de coup d'État, de justice, etc. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup qui parlent aussi de coup d'État constitutionnel. Et la CDAO a voulu trouver une solution et a engagé un processus qui s'est rendu impossible. Et la conséquence de cela, c'est cette dislocation qui la menace. Parce que on peut rajouter que peut-être la Guinée peut aussi demain décider de quitter la CDAO. Ce sera encore plus grave. Ce que je dis par là, c'est que les questions que pose cette crise vont au-delà du simple fait que oui, il y aura des conséquences économiques. Elles sont déjà réelles.
C'est déjà les conséquences. Rama, vous craignez une dislocation carrément. Et quand on voit un peu aussi ce qu'on, pour le cas du Brexit, le reproche c'était que Bruxelles s'immisçait un peu trop de ce qui se passait dans les différentes capitales. Est-ce qu'il y a un moyen de comparer cela, et est-ce qu'il faut s'inquiéter vraiment d'une dislocation de la région ouest-africaine?
Je pense que vu les enjeux énormes liés à la lutte contre le mouvement djihadiste, la nécessité d'engager ces pays, ces États sur la voie du développement, aucun pays, comme au sein de l'Union européenne, ne peut s'en sortir seul. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui explique sans doute qu'en sortant de la CDAO, ces États les fait après avoir rejoint d'autres types d'organisations entre eux. Mais ces groupes militaires vont sans doute continuer à prospérer sur les faiblesses de leurs partenaires africains, comme vient de l'expliquer notre ami à propos du Nigeria, mais aussi occidentaux, le deux poids deux mesures, les gouvernements qui sont assez faibles, les démocraties chancelantes en Afrique, ça, tout ça aide les putschistes à justifier leur coup d'État. Mais pourquoi faire? pour aller où? Parce que d'abord, un, vont-ils tenir leurs engagements de transition vers la société civile, des transitions civiles, c'est-à-dire vers le peuple? Parce que au bout du bout, c'est quand même ça le but, à moins de considérer que les Africains ne sont pas faits pour vivre libres, contrairement aux autres, et donc il faut les maintenir sous le joug des bottes militaires. Moi, c'est pas ma conception des vies africaines. Donc, il faudra bien faire ces transitions. Deuxièmement, il y a des objectifs très précis. Est-ce qu'ils sont capables de sortir durant cette période de transition ces pays-là de la pauvreté? Parce que c'est ça l'enjeu numéro un, d'arrêter les mouvements djihadistes qui sèment la terreur dans les villages du Sahel. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Et que deviennent aussi les oppositions, les oppositions civiles qui ont été complètement zappées des conversations, alors, mais qui sont là dans ces pays-là en train de se battre?
Justement, j'aimerais poser la question à Ali Tunkara. Vous travaillez sur les questions sécuritaires. La sécurité, la lutte contre le terrorisme dans tout cela, comment est-ce que vous voyez avec le départ de ces trois pays?
Alors clairement, c'est vrai que la particularité de ces trois pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le fait que de plus en plus on assiste à l'émergence d'un commandement commun, notamment dans les parties frontalières dites de l'Itakoukouma, or avec la présence des forces internationales, notamment onusiennes, et même la force conjointe du G5 Sahel, ces actions conjointes dans la durée n'étaient pas engagées à votre dessus. Donc, ne serait-ce qu'une simple observation, on peut envisager à ce que ces trois États arrivent, à défaut de mettre un terme dans un avenir relativement long au tourisme, ils vont quand même, au rythme de mutualisation des efforts tant sur le plan militaire et même financier en cours, de circonscrire la menace. Ce sont ces insuffisances notoires à la fois au niveau de la CDAO et même au niveau de la communauté internationale qui expliquerait le pourquoi même de cette mise ensemble, de cette qu'on assiste avec cette frappe. Donc, dans le cas de la lutte contre le terrorisme, les insuffisances dont les puissances étrangères, même sous les mal, s'étaient caractérisées, sont de plus en plus sérieusement prises en compte par cette nouvelle alliance. L'autre élément important, c'est qu'on reproche, quand on est avec ces trois élites militaires en interaction, et nous dirons que, ne serait-ce que la question d'équipement, les victoires qui sont remportées ça et là sont des efforts, certes, qui restent à consentir, mais malheureusement, ces efforts n'ont jamais été salués par la CDAO, quelques victoires remportées par l'armée populaire sur l'ennemi, et même sur l'emporté, l'armée malienne, l'armée nigérienne sur l'ennemi, sont des victoires qui ont été ignominieusement tenues ou ignorées par cet ensemble.
D'accord, on a peut-être quelques secondes. Michel, comment allier sécurité et économie? Ce sont deux secteurs qui vont ensemble, mais dans ce contexte de dislocation, on pense peut-être que... est-ce que la situation s'annonce, disons, positive ou négative, selon vous?
Moi, ce que je pense personnellement, c'est que c'est les contraintes économiques, c'est la difficulté de ces pays aussi de faire face au blocus, et même du gouvernement des autres pays membres de la CDAO, de ne pas aller au pire. Donc c'est l'économie qui va ramener, je crois, la raison, qui va imposer la raison. Parce que inutile de renforcer le blocus, inutile de continuer avec. Les pays vont être obligés de négocier parce que justement, la crise sécuritaire est une bombe qui menace tout le monde. Elle menace pas que les trois pays concernés, elle menace les pays du voisinage.
D'accord.
Bénin, donc je pense qu'il y a une équation qui s'impose à tous les acteurs, c'est de tenir réaliste. Être voilà. Réaliste et revenir à la vie ou pas discuter de
négocier. Voilà, malheureusement nous arrivons au terme de ce Washington Forum, débat à suivre, c'est clair. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique, à très bientôt, au revoir.